Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis ravie de vous retrouver sur cette libre antenne du dimanche soir. Ce moment toujours un peu particulier où une semaine se termine, déjà, diront certains, et où une autre commence avec son lot de choses à faire, de rendez-vous, d'obligations. Quel mot horrible, obligation, qui nous ramène à l'enfance où on devait faire ce qu'on nous disait de faire. Alors certes, en tant qu'adulte, on a toujours certaines obligations, mais peut-être pourrions-nous réaliser que nous nous en mettons nous-mêmes beaucoup sur le dos. À commencer par l'obligation de répondre à toutes les sollicitations. Pourquoi nous sentons-nous obligés tout le temps de répondre tout de suite à nos messages, à nos SMS, à nos mails, à la demande d'un tel ou d'un tel ? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de si affreux si nous utilisions notre temps un peu différemment ? Si on n'était plus dans l'obligation, mais juste dans l'envie ? Si on s'autorisait à prendre un peu de temps pour nous, pour chercher ce qui a du sens à nos yeux, pour nous reconnecter à notre essentiel ? Prendre du temps pour soi, ça passe aussi par s'autoriser à dire ce que l'on ressent, s'autoriser à exprimer nos manques et nos besoins, s'autoriser simplement à parler de soi. Alors prenez ce temps-là ce soir, venez me parler de vous, de vos histoires de famille, de vos problèmes au travail, de vos histoires d'amour, de vos histoires de vie. Appelez-moi au 3921 que nous nous retrouvions dans ce beau studio bleu d'Europe 1. Estelle et Maxime sont là au standard, prêts à vous accueillir. Si vous souhaitez participer, donner votre avis par SMS, réagir à tout ce qui se dit, eh bien vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot « nuit », suivi de votre message dont je me ferai bien sûr la porte-parole à l'antenne. Enfin, si vous souhaitez nous joindre par mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. C'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission, autant vous dire que nous sommes entre deux bonnes mains.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je commence traditionnellement maintenant par ma question pour mieux vous connaître. Alors vous connaissez le principe, si ça ne vous dit rien, eh bien vous laissez tomber. Si à l'inverse, vous avez envie de jouer le jeu, répondez-moi par exemple par SMS au 739-21 suivi du mot « nuit » et vos réponses ponctueront l'émission. Alors ma question du jour, à quel âge avez-vous vécu votre première histoire d'amour ? Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, vous pouvez même me raconter davantage. À quel âge avez-vous vécu votre première histoire d'amour ?
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Alors, je commence cette émission avec Hervé. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sabine.
Alors, ça a été très compliqué hier soir puisqu'on a été coupé deux fois.
Eh oui.
Alors, si ça recommence ce soir, je vais être obligée d'en arriver au signaux de fumée avec vous, Hervé.
Au quoi ?
Au signaux de fumée, pour communiquer avec vous à distance.
Oui, comme non. Les Indiens d'Amérique.
Pardon ?
Comme les Indiens d'Amérique.
Comme les Indiens d'Amérique, oui. Cela dit, plaisanterie mise à part, j'espère qu'on va réussir à se parler parce que hier soir, c'est vrai que c'était un petit peu frustrant.
Ah, c'était un peu frustrant, ouais. Aussi comprends. Pour moi. Aussi,
bah, j'imagine bien, c'est pour ça que je vous avais promis qu'on essaierait de vous récupérer ce soir. Et j'ai l'impression
c'est gentil à vous, Sabine.
J'ai l'impression que la liaison est bonne, là, pour l'instant. Hein.
Mais vous m'aviez dit que je philosophais, mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites de la littérature. Non, c'est très bien, votre speech, là, c'est très bien, très très bien. D'abord, c'est très intelligent, et puis c'est très humain, c'est très généreux, c'est très... très ouvert, très emphatique, très englobeur. Je ne sais pas si ça existe ce mot d'ailleurs, vous voyez.
Peu importe, je vous ai dit, j'adore les gens qui inventent des nouveaux mots.
Ah, bah, vous voyez, la littérature, enfin une langue vivante, c'est une langue qui évolue.
Exactement.
Donc on met des mots dans le dictionnaire à partir du moment où tout le monde les prononce.
Mmh, c'est vrai.
Hein? Et puis c'est tellement beau d'inventer des mots, c'est tellement beau de la langue française en particulier, tellement riche, tellement généreuse, tellement chatoyante, tellement flamboyante qu'elle est utile à nos vies, à nous poser ici ou là et à reposer un peu notre cerveau c'est une carapace qui nous permet justement d'éviter de recevoir les mauvais coups. Tant bien que mal.
Alors, cette langue française, Hervé, va donc vous servir ce soir à nous parler de vos parents et notamment de votre père, je crois, avec qui c'est toujours aussi difficile.
Hein. Ah oui, c'est très dur. C'est très, très dur. Là, vous voyez, hier, j'avais un tas de trucs à vous dire, mais là, aujourd'hui, par exemple, là, je vais manger chez eux, tout ça, je suis dans ma maison, mais eux, ils ont leur maison à eux à côté. Ma mère, ça la rassure. Et mon père est très âgé, il a 90 ans. Et je sais pas, on en est venu à parler de ça, du métissage, pourquoi on a parlé de ça. Moi, mes filles sont métisses. Alors, je lui disais, bah, tu sais, j'ai le métissage. Il me dit, oui, ça vient des colonies. Ah ben, je lui dis, écoute, c'est curieux, parce qu'aux États-Unis, les métis ne sont pas considérés du tout comme métis. Ils font partie de la communauté noire. Mm-hmm. Barack Obama, par exemple, n'était pas considéré comme un métis, alors qu'il est métis aux yeux des Français, mais aux yeux des Américains, il est noir.
Oui.
Alors lui me disait, bah oui, mais il me dit, c'est comme un berrichon qui rencontre une bretonne, ou un breton qui rencontre une berrichonne. Ben, je dis oui, d'un point de vue littéral, tu as raison, je lui dis, parce qu'il y a un mélange, même entre deux personnes bien de même origine, mais il y a toujours un mélange. Il y a un mélange des chromosomes, de l'ADN, tout ça.
Alors, votre père, dont vous m'aviez dit qu'il était plutôt psychorigide.
Ah, il est psychorigide, oui.
Comment est-ce qu'il a pris ces enfants-là, métis, dont vous me parlez, vos enfants?
Ah, oh, ben. Quand je m'étais marié avec ma première femme, il était allé par derrière, ce que m'a dit ma femme de l'époque. Il est allé par derrière lui dire, parce qu'elle était très belle, ma première femme. Bah, toutes mes femmes étaient belles, mais bon. la beauté de l'amour, mais il est allé lui dire par derrière, oui, tu sais, Hervé, il n'est pas riche. C'est pas la peine d'insister, il n'est pas comme ça, il n'est pas riche. Pourquoi il m'a dit ça? Il voulait dire riche financièrement, vous voyez.
Oui, il pensait qu'elle était juste intéressée.
Sans doute. Elle n'était pas juste intéressée. Non. Alors, si vous voulez, ça met les rapports humains quand même dans une complexité incroyable. Il vient s'immiscer dans mes histoires, vous voyez.
Oui.
C'est drôle, ça. Moi, j'étais déjà tombé malade, mais j'avais cette volonté, ce souffle, ce courage de passer outre. J'étais bien habillé, je me lavais bien, j'étais propre, j'étais.
Redites-nous, Hervé, de quoi vous avez souffert?
Ben, je souffre toujours de schizophrénie.
Oui. Et à quel âge ça a été diagnostiqué chez vous?
À 23 ans.
23, oui.
C'est lourd comme pathologie.
Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous arriveriez à décrire comment vous voyez le monde? Qu'est-ce qui vous différencie des autres?
Ah, pourquoi cette question particulière?
Parce que je trouve ça intéressant, beaucoup de gens parlent des schizophrènes. Mais rares sont les schizophrènes qui parlent d'eux-mêmes.
Ah oui, bah oui, bah oui. Bah écoutez, moi comment je vois le monde, je crois que les schizophrènes ne sont pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le monde qui les entoure. Ce qui est dangereux.
Mm-hmm.
Le monde est un danger permanent pour tout le monde. Maintenant, on stigmatise, mais il est le reflet aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La façon qu'on a de s'occuper de nos schizophrènes, de nos malades mentaux, eh ben, si on n'en prend pas soin, ça veut dire que la société va mal. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Hein.
Mm-hmm.
La société va mal parce qu'on ne prend pas soin de nos malades mentaux. Si on prenait bien soin de nos malades mentaux, la société irait peut-être mieux.
Et ce serait quoi pour vous prendre bien soin?
D'un schizophrène?
Oui.
Oh ben c'est être attentif, c'est être gentil, c'est être c'est intégrer les gens, vous voyez.
Ne pas juger trop vite aussi, peut-être.
Pas juger trop vite aussi, oui, bien sûr, bien sûr.
Qui est-ce qui s'occupe de vous sur le plan médical ou psychologique? Est-ce que vous avez justement cette écoute, cette bienveillance autour de vous?
Mon médecin? Bah oui, mon médecin. Ma psychiatre.
Oui.
Puis alors, si vous voulez, on est renversé. On est, quand on est... Enfin, je crois, hein, quand on est schizophrène, on prend tout en pleine face.
Oui. C'est comme,
on dit
si,
rien.
C'est comme s'il n'y avait plus de filtre.
Ah, c'est comme un tsunami. On prend des tsunamis en pleine figure. Et on réagit de façon... moi, je réagis de façon un petit peu cartésienne, comme ça. Ma psy, elle me dit, soyez pragmatique. Mais enfin, à force d'être pragmatique, on finit par se faire enfler. Donc, il faut quand même, à un moment donné, se protéger.
Mm-hmm.
Se protéger du mal. Le mal, il est partout. Et il est à la fois d'une part et partout, le mal. Mm-hmm. Le bien aussi. Le bien aussi, heureusement qu'il y a quand même du bien. Il y a des gens bien, il y a des gens altruistes, généreux, partageurs et respectueux qui comprennent. Maintenant, tout le monde ne comprend pas. Enfin, on est un peu pris pour souvent pour des illuminés ou pour des gens qui n'avons pas de... J'ai entendu un jour, vous voyez, et ça reste dans le milieu médical, je m'étais fait faire une coloscopie à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, et puis avant de m'endormir, on est endormi complètement, avant de m'endormir, alors, je ne sais pas d'où elle sortait, cette infirmière. Elle m'a dit, j'ai expliqué mon truc, j'ai expliqué que j'étais schizophrène. Elle m'a dit, le problème des schizophrènes, c'est qu'ils n'ont pas le sens du pardon.
Oula.
Bon, oui. Oh, oui, c'est grave.
Et puis elle vous fait rentrer dans une case sans rien vous demander, quoi.
Voilà, avant de m'endormir. Mm. Alors je me dis, bah, pourvu qu'elle ne vienne pas me débrancher. Ou... J'étais content en me réveillant, quand même.
Oui.
J'étais content en me réveillant, parce que je ne l'ai pas revue d'ailleurs, je ne sais pas d'où elle sortait.
Mais elle a projeté sur vous quelque chose qui la concerne elle. Elle a probablement vécu une situation comme ça.
Ah, c'est possible.
Et c'est son histoire à elle qu'elle a projetée sur vos épaules, en fait.
Je pense, je pense. D'accord, ouais, c'est possible.
Ça n'a aucun sens de dire ça.
Oh non, c'est même méchant.
Mais est-ce que, si on remonte un peu le fil de votre histoire, quand on a mis un mot sur cette maladie, cette pathologie, est-ce que, quelque part, ça n'a quand même pas été un peu comme un soulagement de vous dire, voilà, maintenant, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça?
Ah bah si, oui, ah bah si, bien sûr.
Il y avait enfin une explication, un mode de fonctionnement différent.
Voilà. Mmh. Voilà. Un jour, la psy, c'est pas celle-là, c'en était une autre. Que j'avais ailleurs, mais je lui ai dit, docteur, j'ai expliqué moi un petit peu de quoi je souffre, et elle me l'a dit, vous êtes psychotique, vous souffrez d'une forme de schizophrénie.
Oui, vous faites bien d'ailleurs de préciser, Hervé, une forme, parce qu'il y a beaucoup de formes de schizophrénie.
Oh, il y a beaucoup de formes, ouais. il y en a beaucoup, mm. On n'est pas unique, hein. puis il y a des degrés aussi de maladie. Hein.
Oui, bien sûr.
Il y a des degrés dans la maladie, c'est terrible. Hein. C'est des maladies, quand elles vous submergent, c'est complètement... on est complètement emporté, on est désarçonné. Alors, on vous donne des drogues au départ pour vous calmer, tout ça, pour freiner un peu le cortex cérébral, parce qu'il agit beaucoup, le cortex cérébral. Le cerveau, il est en pleine ébullition. Donc, il faut des médicaments, un traitement médicamenteux pour calmer tout ça. Et puis après, on peut se poser, une fois que la maladie est stabilisée, on peut se poser. Et alors, évidemment, on est peut-être limité parce qu'on est obligé de se limiter, hein, pour se croire aux yeux des autres. C'est le regard des autres qui est important aussi, qui juge, le regard médical, le regard parental, le regard amical, le regard amoureux. Moi, je sais, j'ai jamais triché dans ma vie. J'ai jamais triché, je pense pas, non. Je suis pas un tricheur.
Est-ce que vous, Hervé, avec un traitement qui, d'après ce que j'entends, vous stabilise, est-ce que vous avez quand même des, ce qu'on appelle des crises régulièrement ?
Non.
Non, c'est, vous n'avez plus ça ?
Non, j'ai plus ça.
D'accord.
Ou alors, si on s'en prend à mes enfants ou à mes petits-enfants, ça, je deviendrai méchant, peut-être. Peut-être. Tu vois, oui, si. Je pourrais être méchant, hein. Mais je suis pas. Je suis pas. C'est pas ma nature profonde. Ma nature profonde, c'est d'être heureux avec les autres, d'être bien, d'être en amitié. J'aime pas le conflit.
Ouais.
J'aime pas les situations de conflit, vous voyez.
Mais en tout cas, vous avez une très grande lucidité sur la pathologie dont vous souffrez.
Ah oui, ah bah oui, à force, oui, à force.
Ce qui est pas évident, ce qui est pas évident. Quelquefois, on discute avec des gens qui sont atteints de cette maladie et qui n'ont pas forcément cette compréhension des choses. Qui sont
ce
quelquefois
recul.
Ouais, ce recul, ils peuvent être dans le déni aussi quelquefois.
Aussi.
Ouais. Et donc bon an mal an, vous arrivez à trouver votre équilibre dans tout ça ?
Ben oui, bon an mal an, j'ai eu 61 ans là au mois d'août, le 15 août, vous voyez. Je m'appelle Hervé. Hervé, c'est le patronyme de la Trinité. Enfin, c'est le... Comment on appelle ça, ça représente la Trinité en breton, justement. Je ne suis pas breton, hein, mais bon.
Oui.
Je suis plutôt berrichon, d'ailleurs. Bon. Et je suis né le 15 août, le jour de la montée de la Vierge au paradis. Bon. Écoutez, je suis né en 59, qui est une année importante. Je me console comme je peux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut se consoler, hein. Faut relativiser toujours un peu les choses, parce que sinon, si on prend tout à cœur, on est mort au bout de deux jours, hein.
Et en vous écoutant, Hervé, j'ai envie surtout de dire, acceptons-nous les uns les autres avec nos différences et arrêtons de juger.
Oh là là, oui. Oh là là. Oh là là. Comme vous dites.
Oui.
Comme vous dites, oui, Sabine, vous avez raison.
Merci en tout cas, Hervé, d'avoir partagé ces confidences avec nous.
Eh bien, je vous en prie.
Vous revenez quand vous voulez et je vous embrasse très fort, Hervé.
Je vous embrasse très fort aussi, Sabine. Bisous.
Au revoir,
Sabine.
Et justement, je vous demandais en début d'émission à quel âge avez-vous vécu votre première histoire d'amour. Vous êtes très nombreux à me répondre, je vais commencer à partager quelques réponses avec vous. Gilly Girl qui dit « Tout dépend de ce qu'on entend par histoire d'amour, mais la petite fille en moi répondrait 4 ans et demi ». Je trouve ça très mignon. Claudine qui dit « C'était à 15 ans et mon premier amour, celui qu'on n'oublie jamais ». Cathy qui nous dit « Mon premier flirt était une histoire d'amour, j'avais 15 ans aussi ». Brigitte qui nous dit « Comme Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Merci Brigitte. Nati qui nous dit « J'ai vécu ma première histoire d'amour à 14 ans, mais c'était pas visiblement un... Ah si, c'était un bon souvenir quand même. J'ai perdu ma virginité avec lui à 14 ans, mais il était beaucoup plus âgé que moi. Patricia de Toulouse qui dit « Ma première histoire a été vécue à 16 ans et nous sommes restés en contact très très longtemps, mais il est parti pour un monde meilleur. Je ne l'oublierai jamais. » Et puis un autre message qui n'est pas signé, mais qui est très touchant. Ma première histoire d'amour, j'avais 10 ans, nous étions en CM1, elle s'appelait Caroline. Et aujourd'hui, à 60 ans, je me souviens encore respectueusement de ces moments passés. Merci à vous pour vos réponses, vous pouvez bien sûr continuer à me parler de votre première histoire d'amour. Et c'est maintenant Mustapha que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir Mustapha.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors vous n'appelez pas pour me parler de votre histoire d'amour ce soir, mais de quoi alors ?
J'aimerais déjà vous remercier pour votre voix.
Oh, merci.
Vous avez une voix très agréable.
C'est gentil, merci à vous.
Ça nous accompagne, nous, les gens de nuit. Nous sommes nombreux, Sophie.
Ah, alors ça partait bien, mais mon prénom c'est Sabine.
C'est pas grave.
Non, c'est pas grave, Mustapha, c'est l'intention qui compte.
Ouais, c'est vraiment très agréable, très serein, votre manière de parler.
Merci.
Moi j'aimerais vous demander, c'était quand, à vous, votre histoire d'amour, à vous, la première ?
La première, toute mignonne, c'était vers 13 ans.
Au collège ?
C'était en vacances scolaires en Angleterre. J'étais partie pour apprendre l'anglais. Il n'y avait que des Italiens sur place et j'ai appris l'italien très vite. Et ça a été le premier bisou, on va dire.
Quel souvenir t'en gardes ?
Ah, je pense que là, vous commencez à inverser les rôles, Moustapha.
Oh, pardon. Mais quel souvenir vous en gardez de ça ?
Je vous redis la même chose, vous inversez les rôles, je ne suis pas ici pour parler de moi, c'est vous qui êtes là pour parler de vous.
Mais moi, je vous écoute très régulièrement, et j'ai d'ailleurs même pas encore votre signe astrologique, c'était la question il y a quelque temps.
Ah, je l'ai donné à la fin de l'émission.
Ah.
C'était Gémeaux.
Super.
Et vous ?
Cancer.
D'accord.
Je suis suicidaire.
Ah, qu'est-ce qui se passe ?
C'est choquant. Je pense, oui. Je suis quelqu'un de suicidaire. J'en ai un peu assez de ce système de vie. Et je tente par tous les moyens, en tout cas les moyens légaux, notamment des motos, des voitures, de mettre un terme à ce délire. J'y arrive pas. Il semble que il y a des projets pour moi, pour l'avenir, mais je ne sais pas lesquels. Par conséquent, je m'intéresse beaucoup à ce que vous dites et à qui vous parlez.
Mmh.
Donc oui, je ne suis pas schizophrène, ni polaire, machin, mais j'ai quand même un côté suicidaire, j'avais envie de le dire.
Quel âge avez-vous, Moustapha ?
Comment ?
Quel âge avez-vous ?
J'ai 46 ans.
Et ça fait longtemps que vous avez cette face un peu sombre comme ça en vous ?
C'est une phrase un peu folle, oui. Ça fait 20 ans que je fais ça. Alors je roule très vite en moto, sur le périph', extrêmement vite. Et je suis toujours là. Après, j'ai un travail nocturne, un peu comme le vôtre.
Mmh.
Je suis agent de sécurité mobile. Là, je me suis arrêté pour vous parler. Je suis pas content de ce que je fais. Je protège les autres, mais pas moi. Et quand je vous écoute, j'ai un peu le sentiment que vous, en dehors d'avoir une voix magnifique, d'être à l'écoute des gens, c'est bien, mais ça ne peut pas changer grand-chose si, au fond de nous-mêmes, on est convaincu, et surtout si on est persuadé que c'est pas qu'on n'a pas notre place dans le monde, ou que peut-être on n'a pas trouvé l'amour qu'on voulait, et que peut-être un peu toutes ces déceptions-là, notamment les premiers amours, et qui n'ont pas abouti. Et si on rajoute à cela quelques divorces, après, moi, je crois plus trop en l'amour, en fait. J'ai même écouté une fois une de vos...
Mm-hmm.
Je ne sais même pas comment dire ça.
Je sais, une de mes quoi ? Émissions ? Auditrice ?
Oui.
Je ne sais pas.
Oui, ça ferait que moi, je serais un auditeur, alors. Mais je suis déjà auditeur. Sauf que là, je suis plutôt acteur dans l'histoire.
C'est vrai. Intervenant, alors, on va dire.
Eh bien, c'est excellent.
Ça vous va ?
Oui.
Bon, vendu.
Pourquoi vous ne parlez jamais de vous ?
Parce que je ne suis pas là pour ça.
Mais nous, on vous attend pour ça. On a envie de vous connaître.
Non, je ne crois pas, Moustapha. Je pense que les gens qui m'appellent, c'est pour parler d'eux ? Pour être écoutés ? Vous n'allez pas voir, par exemple, un médecin pour qu'il vous parle de lui. Vous n'allez pas voir un thérapeute pour qu'il vous parle de lui. Vous y allez pour parler de vous.
Et je trouve ça particulièrement lâche par rapport au thérapeute, notamment que vous êtes en train de citer. Quand on se livre à quelqu'un, quand on commence à souffrir et que peut-être on brise certains tabous et qu'on choque peut-être par nos propos, notamment le mien, en début d'émission, en tout cas en début de communication. Eh bien écoutez, moi, le thérapeute que j'ai vu, il se sent démuni face à moi. Il est compétent et parallèlement, il est incompétent. Et je ne peux pas lui en vouloir de ne pas se prononcer, de ne pas me donner de piste, ou en tout cas pas essayer de m'aider. Mais ne serait-ce déjà que quand je lui informe que je rachète une troisième moto et que mon objectif principal et de la pousser à bout et peut-être même me tuer. C'est le principe, en fait. Sinon, on prend un scooter ou une trottinette. Hein. Et ben, il n'est pas plus ému que ça. À croire que je serai certainement un dossier classé parmi tant d'autres. Et ça, c'est navrant.
Depuis combien de temps le voyez-vous, ce thérapeute ?
Depuis 2013.
Ça fait un bon bout de chemin, quand même.
Ouais. Mais lui, je l'apprécie énormément, mais il a des réflexes. Il a des réflexes un peu stupides, notamment de regarder sa montre ou d'ouvrir grand ses yeux quand il est surpris par un de mes propos. Et j'étais très loin de m'imaginer que la psychologie, ça demandait beaucoup d'écoute et beaucoup de patience, mais ça demande aussi, en tout cas pour le patient, des réponses. Et malheureusement, il y a très peu de personnes qui s'investissent à donner des réponses. Comprenez-vous ?
Alors après, je vous dirais que ça dépend de la thérapie que vous choisissez et surtout du ou de la thérapeute que vous choisissez. Certaines personnes, à l'inverse de vous, n'aiment pas qu'on leur parle ou qu'on leur donne des réponses. Elles aiment être en introspection. D'autres ont besoin d'un dialogue ou d'être pris en main.
N'allez pas dans les extrêmes tout de même. Comprenez bien que quand on est ici, là, un peu comme vos intervenants qui vous appellent très souvent pour des problèmes énormément, hein, maritaux. Mais s'ils souffrent de quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas? Pourquoi est-ce qu'on ne les guide pas? Pourquoi est-ce qu'on a peur de leur répondre? Et on laisse, vous laisser des interlocuteurs, des intervenants, des intervenantes en attente d'une réponse. J'écoute toute la nuit, tout le temps vos émissions. J'en suis arrivé à la conclusion que c'est un métier que j'aimerais bien pratiquer.
Oui.
Oui.
Et donc ?
Et donc, répondez-moi.
Il n'y a pas de question dans ce que vous venez de dire.
Que pensez-vous de moi, maintenant ?
Je ne vous connais pas, Mustapha.
Oui, mais vous m'écoutez.
Bien sûr.
Et donc, ça va sur quel secteur, selon vous ? Un problème psychotique ? Le fait que je vous ai dit que je suis suicidaire, ça vous choque ?
Non. Je ne sais pas trop si vous jouez avec moi ou si vous êtes réellement comme ça. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec cet échange là, depuis tout à l'heure. Mais je ne vous juge en aucun cas. Je ne peux pas connaître quelqu'un par 5 phrases au téléphone, vous le pensez bien.
D'accord.
Qu'est-ce que vous venez chercher ce soir en m'appelant, Mustapha ? En quoi je peux vous aider ?
Ça, c'est mignon. C'est très gentil. Je pense pas que vous puissiez m'aider. Vous le faites déjà tous les soirs. Là-dessus, Olivier aussi, c'est très bien. On vous cache la vérité. Quand on vous appelle, on ne vous dit pas tout. Comprenez bien que la souffrance, elle est... En tout cas... Pour moi, elle est permanente. Vous parliez d'amour en début d'émission.
Oui.
Je suis égoïste, je n'aime que moi. Eh oui, je n'aime que moi. Tous les matins, je m'aime particulièrement. J'ai envie de me tuer, mais je m'aime aussi. Et j'aime personne d'autre. Je ne veux plus donner mon amour à quelqu'un, c'est plus possible. J'ai un métier assez prenant, avec aussi son lot de risques que vous n'avez pas, vous. ça me ramène à la conclusion que finalement, quand je vous écoute, j'essaie de trouver des pistes. J'ai, à chaque coup, je me dis, je prends même des notes, hein, c'est vrai. Et je m'arrête même en voiture pour prendre des notes, quelque chose qui pourrait m'être utile. Mais finalement, je voulais juste dire ceci. Je vais terminer, je vais réussir à me tuer un jour ou l'autre. Mon objectif n'est pas de me tuer. Comment je peux expliquer ça? Disons que j'aime beaucoup les risques. Et plus je prends de risques, plus je me sens bien. Et plus je me mets en danger, et je sens...
Là, vous avez besoin de cette adrénaline qui monte comme ça?
Oui, c'est un peu ça, ouais. Mm. Je n'arrive pas à me l'expliquer, même mon psychologue ne l'explique pas. Au contraire, il est paniqué dès que je lui en parle. Pourtant, c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder. Pourquoi j'achète des motos? Pourquoi je les pousse à fond? Et pourquoi je me mets en danger? Parce que je veux que la finalité, je disparaisse. Et sans souffrir. Et dans un bon trip. Tu vois? Ben, vous voyez?
Qu'est-ce qui vous a blessé à ce point-là dans la vie pour en arriver à cette conclusion?
Ben, c'est justement la vie elle-même. Vous savez, quand les gens vous appellent et qui vous parlent de problèmes qui pour eux sont très importants, mais j'imagine que pour vous c'est un peu anodin et il y a un côté répétitif. Hein. La maman, le papa, machin, c'est... On a tous... J'ai moi aussi solo là. Et je trouve dommage de... Enfin, je trouverais dommage de m'étendre sur un cas en particulier. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Que ce soit le voisinage, la police. Il y en a énormément de cas. Mon fils, par exemple. Mais en me questionnant moi-même, je serais plus heureux si je pouvais quitter cette terre en perte ses fracas. J'adorerais ça et c'est ce que je fais tout le temps. Pourtant, je n'y arrive pas. Et à chaque jour qui passe, je me dis que c'est pas cette journée-là où je partirai. C'est pas aujourd'hui, il faut que je reparte au boulot et que je continue. Mais je sais que c'est mon objectif. Voilà. Je suis un très beau garçon, j'ai 46 ans, c'est pas... La dernière fois, vous avez dit que c'était un jeune âge. Hein.
Oui. Bah, tout est relatif. Hein.
Ouais. Voilà. C'est pas super charmant, je suis désolé. Mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis. Je suis vraiment navré. J'aurais tellement voulu que vous m'aidiez, mais je pense que vous ne pouvez pas.
Ah là, je pense qu'on est tout à fait hors cadre d'une émission de radio, Moustapha, et je pense que vous le savez aussi.
Je sais, et justement.
Je peux juste vous écouter avec beaucoup de bienveillance et espérer que votre thérapeute vous amènera un peu de lumière dans tout ça. Si vous le voyez à quel rythme, d'ailleurs?
Tous les mercredis.
Toutes les semaines.
Oui. Et plus ça va, plus il est minable.
Alors changez-en.
Il faudrait tout reprendre au début et ce serait plutôt compliqué.
Vous n'êtes pas où vous étiez au début? Bien sûr que non.
2013, 2020, 7 ans de thérapie, hein. Ça serait plutôt un grand début, je crois.
Mais vous n'allez pas reprendre les choses au début, vous allez reprendre les choses là où elles sont maintenant. Par définition, si on n'avance pas avec un thérapeute, c'est peut-être que le chemin est terminé avec celui-là et qu'il y en a un autre à commencer avec quelqu'un d'autre.
J'en doute, réellement. J'en doute vraiment. Vous savez, quand les gens vous ouvrent leur cœur et qu'ils vous parlent de leurs problèmes les plus profonds. Et parfois, c'est des choses que moi, j'imagine, je vous imagine, vous rentrant chez vous. Comment vous gérez ça? Comment vous faites pour pas vous initier et pas vous investir? Comment vous faites pour faire la part entre... Vous avez toujours ce même... Vous parlez de thérapeute très souvent et vous dites aussi une phrase qui, malheureusement, me déçoit. Quand vous dites « on va travailler dessus ». Ça, c'est un truc que, s'il vous plaît, hein, je vous le dis, travailler dessus. Mais on peut travailler sur tout, mais pas sur ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. On ne travaille pas dessus, on le subit.
Ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Par définition, un travail thérapeutique, ça s'appelle comme ça. Je ne l'ai pas inventé. C'est précisément sur ce qui nous touche le plus. Alors, changez le verbe si le verbe ne vous convient pas, mais le résultat est le même. Travailler, étudier, mettre des mots, réfléchir, prendre du recul sur ce qui nous touche le plus et voir ce qu'on en fait.
Vous avez raison.
Il y a un message qui va vous plaire, Mustapha. C'est Barbara qui nous écrit « Mustapha me paraît très intelligent, il serait sûrement très fort en tant que psychologue. »
Ah bon ? Je suis déjà pas très fort en tant qu'être humain. Et quand on me côtoie, je vous mens pas.
Allô ?
J'ai vraiment envie de me supprimer.
Allô, allô ? Ah, attendez, pardon, j'ai une micro-coupure. Ah, c'est mon casque, visiblement, qui a...
Non, c'est pas grave.
Je suis restée à quand on me côtoie.
Je ne changerai pas de point de vue. Et j'adore vous écouter. Et vous, toute l'équipe. Mais c'est définitif. Et en tout cas, tout de suite comme ça, c'est un peu mon objectif. Parce que j'ai un peu le sentiment d'avoir fait le tour de tout. C'est pas uniquement le tour du périph à son niche, non. C'est aussi m'investir pour des entreprises, des gens, des biens. Et c'est en aucun cas, c'est pour moi, c'est pour eux. Par conséquent, je poursuis ce que je fais, c'est très important. Mais en même temps, j'ai un peu ce côté Mad Max. Voilà, je n'en démords pas, j'arrive pas à me séparer de ça. Ça me prend le matin, ça me prend des fois la nuit. Puis je parlais tout à l'heure d'adrénaline, c'est tout à fait ça.
Vous avez besoin de remplir quelque chose.
Oui. J'ai besoin de me mettre en danger, j'adore ça.
Juste une question, je vous expliquerai pourquoi je vous la pose après. Est-ce que vous savez comment vous êtes né? Vous savez, on peut naître en césarienne, prématurée, cordon autour du cou, forceps, des choses comme ça. Est-ce que vous savez comment s'est passée votre naissance? Est-ce que par hasard, vous aviez le cordon autour du cou?
Non, j'ai jamais connu ma maman. Mon père l'a chassée quand j'avais 2 ans. Elle a volé dans un magasin, il l'a chassée.
D'accord, donc vous n'avez pas cette information.
Très, très brutal comme truc quand même. Et du coup, je la connais pas, je sais pas où elle est. Bon, ça fait 44 ans déjà maintenant, j'ai passé le truc.
Vous êtes sûr qu'on se remet de ça, complètement? Qu'il n'y a pas justement une faille qu'on essaie de remplir après?
Ah non, d'ailleurs, si vous aviez Olivier au téléphone, il serait ravi d'entendre ça. Mon père, quand il a chassé ma maman, il a pris sa sœur. Ma tante. Ah, et ben voilà. Et ça, c'est qu'un épisode. Hein. Et je vous dirais que c'est la saison 1 de mon histoire, et encore. C'est-à-dire que quand vous écoutez les gens, vous parlez de leurs soucis, je les écoute aussi. J'ai aussi des réponses pour eux. Des réponses un peu plus radicales que les vôtres, parce que vous vous engagez en ligne. Moi, j'ai cette liberté-là de pouvoir leur parler. Je ne le fais pas. Je vais même vous dire quelque chose. Parfois, vous savez, cette mamie tata, c'est ça ?
Mamie tam-tam, oui.
Mamie tam-tam, voilà. Eh bien, une fois, je l'ai entendu qui répondait, elle a envoyé un mail à Olivier. Il était en communication avec une dame, justement, qui était battue par son mari. Et avec toute la générosité d'Olivier, elle a quand même envoyé un mail en lui disant que les femmes n'étaient pas toutes mauvaises. Eh ben, si. Vous êtes mauvaise. Vous avez de quoi être mauvaise. Parce que les hommes sont mauvais. Donc, c'est légitime. Alors, son propos par mail, c'était pas justifié. c'est votre préféré, il me semble. Moi, je n'ai pas apprécié le propos. Donc, aujourd'hui, si elle m'écoute et qu'elle pense à ce que je dis, et elle écoute ce que je pense et ce que je ressens, elle va être extrêmement surprise, cette gamine. Vous savez, je suis vraiment désolé. Je vais devoir vous laisser.
D'accord, Moustapha, c'est comme vous voulez.
C'est parce que vous ne m'écoutez pas.
Bien sûr que si.
Non. Vous avez qui à l'antenne derrière? Vous savez très bien que vous ne m'écoutez pas. Et vous n'avez pas de solution pour moi. Donc, c'est une impasse, quelque part. Ce n'est pas un échec pour vous professionnellement, rassurez-vous. D'ailleurs, on se croisera sur le périph. Cependant, j'estime qu'il y a des limites à votre émission.
Je pense qu'on les a effectivement atteintes.
D'accord. Je suis vraiment navré. Je ne voulais pas avoir de tels propos avec vous.
Au revoir, Moustapha. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette deuxième et dernière heure de Libre Antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez bien sûr à n'importe quel moment composer le 39-21 si vous souhaitez passer à l'antenne ce soir. Vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime. Ils vous guideront jusqu'à moi. 39-21 donc pour nous appeler. Pour réagir par SMS, vous continuez à faire le 7-39-21 en commençant par le mot nuit. Suivi d'un espace et vous écrivez votre message. Enfin les mails pour arriver jusqu'à nous. Vous connaissez l'adresse Libre Antenne en un seul mot. libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Alors ma question pour mieux vous connaître ce soir était, à quel âge avez-vous vécu votre première histoire d'amour? Et j'aimerais partager avec vous la réponse de Martine qui dit « Mon premier amour, c'était quand j'avais 17 ans. Eh bien, nous sommes toujours ensemble, nous avons 3 enfants et 8 petits-enfants, ça fait 50 ans de mariage en 2020. » Un grand bravo à vous Martine et merci d'avoir partagé ça avec nous. J'aimerais aussi dire merci à Barbara, merci à Cathy. Merci à Isabelle, à Alexis, à Delphine, à une autre Isabelle encore, à Bernard et à tous ces gens qui m'envoient depuis tout à l'heure de très gentils messages et de soutien, de très gentils SMS. Merci à vous, je vous embrasse tous. Et j'accueille maintenant sur notre libre antenne David. Bonsoir à vous David.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Donc, j'espère que vous allez bien. Donc là j'ai un peu le trac, mais bon ça va aller parce que même si j'ai fait l'animation par le passé, bon, j'ai oublié ces choses-là et bon.
Vous avez animé quoi? Donc,
j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et je faisais des animations, j'étais quelqu'un qui n'était pas extraverti, puis par le cours de la vie, certaines choses, je suis devenu extraverti, j'ai animé des soirées dansantes, et puis j'étais le centre de, je sais pas comment expliquer ça, le centre de regard de gens, quand je faisais des animations, quand j'allais très bien. Et d'ailleurs, j'avais appelé il y a quelques années dans votre émission, parce qu'on a tous nos petits problèmes, et puis moi je voulais appeler pour des petits problèmes que j'avais, et puis je ne l'appelais pas, parce que voilà, parfois, bon... Et une fois, je l'avais appelé pour remonter les bretelles avec quelqu'un, il dit, ouais, faut sortir, faut remonter, je lui avais donné des adresses de sortie et tout. Et aujourd'hui, c'est moi, au bout d'un an, qui me retrouve dans une impasse très plus que difficile.
Bon, alors c'est moi qui vous tend la main ce soir, David.
Alors, parce que je vais vous expliquer, donc je suis en train de perdre mon travail, parce que je suis en arrêt depuis un an. J'avais rencontré quelqu'un pendant mon arrêt, donc ça a cassé automatiquement parce que cette personne-là, au début ça allait bien, c'était devenu mon infirmière, et puis on sait très bien que.
C'était pas la bonne raison.
C'est pas une infirmière, et puis de toute façon, ça a cassé, de toute façon ça pouvait pas tenir. Donc je suis tombé très bas dans le sens où j'ai une sociale très riche. J'étais dans une entreprise où il y avait énormément de salariés. Je faisais énormément de sorties, on va dire que je voyais entre 200 et 300 personnes par semaine, donc je voyais beaucoup de gens. Et du jour au lendemain, donc quand vous tombez malade, donc c'est un mois d'arrêt, après c'est 2 mois d'arrêt, des arrêts prolongés tout le temps.
Qu'est-ce qui vous est arrivé au niveau santé?
C'est-à-dire que je pense que j'étais quelqu'un, donc je suis quelqu'un donc de... Alors, quelqu'un, un grand manque de confiance, donc je suis quelqu'un qui se restait souvent célibataire, même si j'ai eu beaucoup de compagnes. Et j'ai vécu en autarcie, un peu comme un autiste pendant des années, c'est-à-dire que je me défendais, je vivais dans mon petit monde, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis, j'avais une vie très active, et puis j'ai pas de problème de santé. Et puis l'année dernière, j'ai commencé à avoir un problème, j'avais des petits problèmes de santé, un problème de vue, ma vue qui a baissé. Et puis bon, j'ai pas fait trop cas. Enfin, bon, je vivais avec, c'était pas méchant, c'était l'âge, hein, parce que moi, je vais sur mes 50 ans. Et puis, au mois de septembre, j'ai été hospitalisé pour une, bon, soi-disant une crise d'angoisse, des problèmes de déglutition, donc j'arrivais plus à avaler. Et c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens, c'est-à-dire que j'avais de la tachycardie, j'arrivais plus à respirer. Donc j'avais un médecin qui me disait, mais vous inquiétez pas, tout c'est dans la tête, patati, patata. Et donc, il ne voulait pas me faire reprendre le travail. Donc tous les mois, j'allais voir mon médecin. Et puis, il n'était pas question de reprendre le travail. Mm-hmm. Il me bourrait de, enfin, il me filait des neuroleptiques, des anxiolytiques. Il ne cherchait pas plus loin.
Sans, c'est ce que j'allais vous demander, sans aucun examen physique, médical.
Alors, j'ai fait plein d'examens médicaux parce que donc on a pensé que c'était la thyroïde. Après, un moment, vu que j'ai des problèmes pour respirer, on a fait les poumons. J'ai été paralysé à un moment de la main, d'un bras. Donc, moi, j'ai pensé à la fibro ou la sèpe ou des trucs comme ça. Bon, c'était pas ça. Mm-hmm. Et puis en réalité, je me suis rendu compte que c'était les neuroleptiques qui me donnaient. Donc, j'ai arrêté toutes les saloperies.
Ah oui, les effets secondaires.
Donc maintenant, de temps en temps, je suis au Xanax. Je suis obligé de temps en temps au Xanax parce que pour faire ce qu'on appelle de... Je suis arrivé à un stade, parce que bon, j'ai fait un peu j'ai fait une psychothérapie il y a quelques années. Vous savez, le stade où on a tellement de négatifs, on fait, je crois que c'est l'anhédonie, c'est-à-dire que, je ne sais plus le terme, c'est-à-dire qu'on se libère de tous les sentiments. Et les anxios aident à oublier tout le mauvais, tout le bon. C'est pas une solution, mais c'est une solution provisoire.
C'est comme un airbag, on va dire.
C'est une béquille, mais c'est pas une jolie béquille. Enfin, maintenant, je suis en train de partir sur des compléments alimentaires, sur les plantes. Et, bon.
C'est une bonne idée aussi.
Et, puis,
et une bonne et alimentation après, aussi, pas que les compléments.
Bonne alimentation. Et puis le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, mon médecin, donc j'étais malade à crever, j'avais mal partout, de toute façon. Et puis ballonnement, nausées, machin. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils me surdosaient depuis des années sur un médicament qu'on ne va pas citer, sur un inhibiteur de la pompe à proton pour les gens qui ont des problèmes d'estomac.
Problèmes d'estomac, oui, c'est ça.
J'avais une surdose depuis 5 ans. Donc du jour au lendemain, on a mis la dose normale. J'ai eu plus de problème.
Ah.
Résultat, ce qui s'est passé après, je suis chopé de l'hypertension parce que un mois d'arrêt à se bouffer des médocs et puis plus travailler, machin. Donc là, c'était l'hypertension, des douleurs intercostales. Le confinement, pendant le confinement, je suis parti vivre chez ma compagne que j'avais rencontrée pendant ma maladie. Et les relations se sont dégradées avec ma compagne. Donc j'ai changé de médecin. Le nouveau médecin que j'ai eu a été très intelligent. Il m'a proposé un mi-temps thérapeutique parce que j'étais dans un état où je ne pouvais pas reprendre à plein temps. Et vu que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de jour-nuit, que ça m'a détruit, parce que j'ai eu pendant 10 ans des antidépresseurs à cause de ça.
Ouais, ça, c'est extrêmement important ce que vous mentionnez là. On sait à quel point ça a usé, les horaires
voilà.
décalés.
Et donc, mes temps thérapeutiques, il était que le temps... donc, je reprenais mon poste, mais sans faire les nuits. Et il m'a été refusé, alors que ça aurait été que 2-3 mois sans faire... Et les nuits, ça m'a été refusé. Donc, mon médecin était sur le luc, on ne va pas dire le terme grossier. La santé, la sécu était OK, tout le monde était OK, mais seulement ça m'a été refusé. Et puis, au fur et à mesure, une activité, moi qui faisais 15 000 fois par jour, un peu taré. Quoi, parce qu'en gros, j'écris, je suis quelqu'un qui écrit, je fais de la mécanique, je marchais beaucoup, j'étais beaucoup sur l'ordinateur. Donc, et puis du jour au lendemain, vous ne faites plus rien. Alors, je bricolais sur ma voiture, ça m'occupait, de temps en temps un peu, mais voilà, mais c'est pas ça qui va vous rassurer les gens. Il y a eu le confinement qui a tout changé dans la société, notre façon de nous a isolés, de toute façon, les gens, nous a isolés, même aujourd'hui, on a du reste du confinement. Et donc, j'étais à voir le médecin du travail, et vu que j'ai eu en plus un accident, ma vue a commencé à baisser sérieusement. Mais là, quand je dis baisser sérieusement, là, c'était plus problème de. Vous savez, avec l'âge, on a la presbytie, hypermétropie. Moi, j'ai chopé la hypermétropie à mes 50 ans. Bon, ça, on comprend, quoi. Mais là, le problème, c'est que. Oui. Bon, là, le problème, c'est que ça baissait, c'est-à-dire que je voyais de moins en moins, de plus en plus sombre. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez la voiture, vous avez un nuage, vous y allez la nuit. Vous allez vous balader, faire une randonnée, il y a un sous-bois, machin, vous êtes dans la nuit. Donc psychologiquement, quand vous avez vu pendant nickel, pendant 50 ans, du jour au lendemain, votre cerveau, il n'accepte pas.
Mais vous avez passé tous les examens en glaucome et tout ça pour vérifier ?
Alors, je l'ai fait, plusieurs ophtalmo, et puis ils n'ont rien trouvé. La dernière, elle m'a envoyé un peu balader parce que c'était à Rennes. Moi, je suis à Morlaix, hein, du côté de Morlaix. Et on était pressé pour rentrer. J'étais avec une amie, donc elle a fait « vous avez rien », machin, bon. Donc demain, je voulais voir un neurologue. Et après demain, je vais aller voir un hypnothérapeute qui va m'aider parce que aujourd'hui, il faut que je vive avec mon handicap, c'est-à-dire
un hypnothérapeute, vous avez dit.
Il va faire de la PNL, c'est-à-dire que donc c'est l'hypnose, mais vous êtes éveillé quoi.
Mais on ne dort pas pendant l'hypnose.
Oui, parce que les gens croient qu'on dort, mais
ça c'est des croyances, ça, c'est pas la réalité.
Du cinéma. Hein.
Bien sûr.
Et donc cette personne-là, j'espère que ça va m'aider un peu parce que moi, ma vue sur beaucoup de choses parce que j'ai fait. Ma vue, c'était principe, enfin, c'était ma. De toute façon, comme nous tous, hein. Moi, je suis dans une très belle région, c'est un plaisir, quoi. Voilà, moi, je suis en Bretagne, vous avez des très jolis paysages. Enfin,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ne voyez pas?
C'est-à-dire que tout est dégradé, c'est-à-dire que j'avais déjà de la myodésopsie, bon, c'est pas méchant, vous savez, les mouches volantes, bon, ça arrive avec l'âge. Donc maintenant, je vois beaucoup plus sombre qu'avant. Les médicaments font aussi que j'ai la vision. Des problèmes au niveau des contrastes, au loin, quoi. Donc, les belles couleurs et les belles images, je ne les vois plus. Et je pense, moi, par rapport à ça, ce qui me fait énormément de mal, c'est les dernières vacances que j'ai passées avec des amis en Grèce l'année dernière, mois d'avril. Et des souvenirs magnifiques. Et je me dis, mince, est-ce que je pourrais revoir ça, quoi. Parce que, il y a des gens qui perdent la vue. Je n'ai pas perdu la vue, hein, je vois. Hein, mais j'ai perdu énormément de qualité. Hein, mais c'est plus qu'en qualité de vue, parce que c'est psychologiquement, ça atteint, quoi. Et j'en deviens agora, enfin, tu presque en sortir, quoi, de la maison. Et donc, je suis devant la télé, j'essaie de regarder un peu la télé. L'ordinateur, j'avais un ordinateur LED parce que je le connais, je suis dans le technique depuis des années. Je l'ai foutu en l'air, je l'ai cassé parce que je pense que la vue, le LED, enfin, le LED est un destructeur de la rétine à long terme, si on en abuse. C'est un domaine technique un peu particulier. Hein, parce que moi, je suis technicien médical à la base, donc c'est-à-dire que j'ai eu une formation, j'ai été sur un mauvais chemin pendant 30 ans. Hein. J'ai bossé dans le technique j'ai commencé en 89 en technique, j'étais plein temps en 96. Et là, je suis en arrêt depuis un an. De toute façon, ça devait s'arrêter à un moment ou à un autre parce que j'étais dans un milieu ingrat et moi, je suis plus quelqu'un qui fonctionne dans le social. Je suis quelqu'un qui suit. Dans le partage avec les autres, dans la création. Et bon, de toute façon, à un moment ou à un autre, de toute façon, le corps, il a dit stop, je pense. Et donc, pour venir au médecin du travail, la dernière fois, donc il m'a vu que j'avais en plus un accident à l'œil, j'ai eu un coup dans l'œil. J'avais des restrictions, donc plus faire de nuit, plus faire ça. Puis là, on m'a proposé un mi-temps thérapeutique, à nettoyer des machines dans l'entreprise, avec un chiffon et du pétrole. Et moi, je me suis dit, non, là, je peux pas. Parce que là, j'avais un poste quand même pendant presque 30 ans, 6 millicardes. J'avais des responsabilités. Puis du jour au lendemain, on vous dit, vous allez nettoyer les machines.
Ouais.
Donc, j'ai vu que j'avais des examens réguliers. J'avais dit à mon médecin, je pourrais pas. De toute façon, psychologiquement,
vous tiendriez pas.
Donc, je devais reprendre au mois de début septembre. Donc, j'ai pas repris. De toute façon, j'avais des rendez-vous médicaux. Ce qui va vous étonner, j'ai aucune aide psychiatrique ni psychologique. J'ai eu une psychologue. En début d'année, mais moi, les clés, je les connais. J'avais fait une psychothérapie il y a un an et demi. Bon.
Attention, David, on a beau connaître les clés, si on ne s'en sert pas, elles ne servent à rien.
Je m'en sers pas, voilà.
Voilà, c'est bien ça ce que je comprends.
J'ai pas vu, donc on m'a donné des adresses de psychiatre. Et puis, enfin, à chaque fois que j'appelais, la personne n'était pas là, c'était en vacances, machin. Donc finalement, je me suis jamais fait aider. Et là, on m'a proposé d'aller en maison de repos. Donc, peut-être que j'irai en maison de repos. Mais le plus dur dans l'histoire, c'est la solitude. Parce que j'avais eu une amie derrière mon téléphone. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Elle m'a dit, je fais plus rien de mes journées. C'est-à-dire que je me lève le plus tard possible. J'essaie de faire le minimum d'ordinateur. Et je fais plus rien de mes journées.
Oui.
Donc, et puis les amis, donc j'ai plein d'amis. Hein. Heureusement, j'ai des amis formidables autour de moi. Donc, je vais les embêter un peu, quoi. De temps en temps. Et les gens, vous pouvez pas. Moi, j'ai pas. Voilà, je suis célibataire, sans enfant. Hein, je suis. Et la famille est éparpillée dans toute la France. Mes parents sont très anxiogène. Donc je vais les voir très peu de fois parce que ça ils me ramène en plus de l'anxiété en plus.
Donc, ça a toujours été comme ça ou c'est parce qu'ils sont âgés?
Oui, ça a toujours été comme ça. Ah. Ah, oui, parce que mon caractère.
Donc mon caractère. Vous avez été vous aussi biberonné à l'angoisse alors?
Ce qui s'est passé, moi, mon manque de confiance, parce que je suis quelqu'un qui a des capacités, c'est ça qui est fou, hein, j'ai des capacités énormes, j'aurais dû réussir dans ma vie normalement. C'était par rapport à un manque de confiance, qui a été dû au fait que j'ai été. Les deux bouquins que j'ai fait, donc je l'explique dans les deux livres. Il y en a un qui va paraître bientôt. Peu importe, je ne donnerai pas le.
Non, peu importe, ce sont des livres sur quoi?
C'est un pagnol, on va dire, à la sauce années 70, hein, sur les souvenirs d'enfance d'été. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, je vous ai expliqué, donc ma mère a divorcé, m'a pris sous le bras à 3 ans. Donc je ne suis pas. On ne joue pas dans le Zola, hein, c'est pas aussi triste que le Zola. Donc elle m'a pris sous le bras à 3 ans, elle est partie vivre à Paris. Donc elle a divorcé de mon père, ça ne se faisait pas à l'époque. Hein. Et quand je passais mes vacances, mon père me prenait, il me balançait chez ma grand-mère, qui était une grenouille de bénitier. Et j'en étais très malheureux, donc je passais un mois très malheureux donc à la campagne. Heureusement que j'avais mon grand-père qui était à côté à l'époque. J'allais faire les moissons, et voilà, j'avais les joies de la ferme à l'époque. Et de l'autre côté, c'était côté mère, j'avais mes grands-parents, côté maternel, eux c'était à la mer, donc on passait un mois à la mer tous les ans, dans le Morbihan. Et là j'avais d'autres souvenirs qui étaient très différents. Et donc, c'est un livre qui parle avec un certain lyrisme de souvenirs d'enfance. Mais finalement, il est dur, hein, parce que moi, quand je lis le préface, j'ai revu le jour le préface de mon livre et le résumé, c'est vrai qu'il est très dur quand même. Donc, il parle de ses souvenirs d'enfance et d'abandon. Donc, c'est ça ce que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie. J'ai toujours eu cette peur d'être abandonné. Et donc, qui m'a entraîné dans ce problème de confiance en moi, qui est bouffant, parce qu'après... Même avec les femmes, hein, j'ai eu plusieurs compagnes, mais on m'a dit, un jour quelqu'un me l'avait dit, c'était vrai, qu'on me choisissait, mais je ne choisissais pas. C'est-à-dire que les personnes qui m'intéressaient, on va dire, je n'osais pas.
J'ai l'impression, ouais. En vous entendant, David, qu'il y a une partie de vous qui pense qu'elle ne mérite pas, finalement, dès qu'on l'aime.
Voilà. Oui, c'est ça. Et mes amis ne comprennent pas. Parce que puis là, quand ils me voient, ils me disent, mais on t'a pas connu comme ça.
Mais ils voient la vitrine, vos amis.
Il voit la vitrine, il voit pas ce qu'il y a derrière, et enfin ce qu'il y a derrière remonte, hein, parce que pendant 10 ans d'antidépresseur, j'ai eu 10 ans d'antidépresseur, par contre je déconseille, s'il y a des gens dans un antidépresseur, les antidépresseurs, il faut que ce soit à court terme, parce que quand les antidépresseurs, moi les 10 ans d'antidépresseur, ce que ça m'a fait, ça m'a pas fait de mots, on va dire, physiques, hein. Mais ça m'a enlevé tout le côté émotionnel, parce que moi j'ai appelé ça à l'époque le médicament anticon, c'est-à-dire que, avant j'étais à fleur de peau. Donc, du jour au lendemain, j'étais plus à faire de peau. Quand il m'arrivait une bêtise, hop, j'oubliais. Et toutes les émotions, ça me les avait refoulées au fond.
C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais d'airbag. L'airbag nous maintient à distance et nous sauve la vie, peut-être. Mais effectivement, oui. Ça nous maintient à distance dans les deux sens du terme. Quelquefois, on aurait besoin de ne plus avoir cette distance. Et c'est là où je vous rejoins. Quand on peut, évidemment, il faut éviter le long terme. C'est pas le but.
Le long terme.
Je compare souvent ça à un plâtre. Vous savez, quand on se casse la jambe, il faut un plâtre. Mais à un moment donné, il faut l'enlever et se rééduquer.
Il faut l'enlever rapidement. Voilà. Et nous, bon, aux États-Unis, au Canada, ils ont ce qu'on appelle des méthodes de déprescription. C'est-à-dire que dans un système, il y a le système occidental, hein, le système asiatique et le système américain. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, quand ils ont un médicament, un chimique, on revient vers eux, puis on leur dit, est-ce que ça va mieux ou pas, puis que ça va mieux ou pas, de toute façon, on arrête le médoc, on passe à autre chose. Parce que c'est sur du long terme, là, il y a plus de. Secondaire que.
Bon, plus de dégâts négatif. Que d'avantages.
Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis dans une impasse abominable parce que je sais que je ne reprendrai plus mon poste. J'ai su que, vu que mon médecin du travail. J'ai voulu reprendre un mi-temps thérapeutique, même la nuit. Et le médecin du travail m'a dit non, vous ne ferez plus la nuit, de toute façon, parce que vous n'êtes plus à faire la nuit. Vous n'êtes plus à faire la nuit. Donc, mon poste, je ne pourrai plus le faire, puisque mon chef de service, il veut à tout prix que. Que les nuits soient dedans, donc je vais perdre mon poste, il est perdu définitivement. Dans mon entreprise, de toute façon, je pense que j'aurais énormément de mal à revenir, parce que même mes collègues proches n'ont pris aucune nouvelle pendant un an.
Ouais, je pense qu'il y a une page à tourner là, et que ça va être peut-être intéressant de travailler là-dessus en hypnose.
Oui, et j'avais demandé d'ailleurs en hypnose, parce que donc, quand vous faites une pré-séance d'hypnose, vous passez 3 heures et la personne vous demande ce que vous voulez exactement. Et moi je lui dis, j'ai vécu sur le mauvais chemin pendant 30 ans, il va falloir que je change de chemin, c'est très dur, hein, parce que dans la vie. Dans un bouquin, dans le deuxième livre que j'aurai à paraître, j'ai des proverbes. Et je dis que ce qui fait peur souvent dans la vie, c'est l'inconnu. Et si on vit dans la merde, si on vit dans la merde du jour au lendemain, si on est tout le temps dans la merde, on reste dedans souvent parce qu'on connaît ça. Donc on n'a pas peur, on connaît.
C'est vrai, si, même si notre cerveau a toujours peur de l'inconnu. Oui. C'est vrai.
Voilà, et si on a quelque chose de plus beau devant, on se dit « Ah oui, non, mais là, je ne vais pas y aller parce que c'est l'inconnu, je vais me casser la gueule. » Et à un moment ou à un autre, donc j'avais dit à mon psy, l'hypnothérapeute, de toute façon, il faudra que je me foutis dans la tête que je change, quoi, que je plaque de tout au tout, et puis peut-être partir sur une vie plus simple, parce que j'étais quelqu'un de très matériel. Je suis un collectionneur, hein, je suis un collectionneur compulsif, si vous essayez le nombre de collections que j'ai sur moi. J'étais quelqu'un de très matérialiste. Je vivais dans une maison, voilà, avec... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je bricolais, dès que je pouvais faire un truc au niveau technologique, et que... faire des bricoles, tout ce qui avait rapport à la technologie, je faisais. J'ai eu des collections sur des véhicules, enfin, j'ai une collection, hein, j'ai peut-être des gens qui vont me reconnaître, j'ai 1000 voitures en collection, vous savez, des miniatures, j'ai fait des collections de montres. J'ai fait des collections, tout sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà. Mais je vivais dans ce monde-là parce que ça me protégeait, pendant des années, parce que j'avais manque de confiance en moi, donc c'était un certain autisme. Et la maladie vous rattrape et là vous retrouvez seul. Et là,
à propos de maladie, David, qu'est-ce que vous cherchez avec le neurologue demain? C'est quoi l'objectif?
Neurologue, on a alors voir si il y avait une SEP, donc SEP pour ceux qui savent pas, évidemment, ce que c'est, la sclérose en plaques, parce que j'ai eu plein de, ça partait dans tous les sens, à un moment, les problèmes de santé, et j'ai eu de temps en temps des problèmes de tachycardie, donc voir s'il y a un problème.
Ce sera la première fois que vous allez rencontrer un neurologue?
Oui, que je vois un neurologue, oui. SEP, oui. Tumeur ou fibre. Alors bon, fibromyalgie, bon, c'est encore une autre histoire.
Oui, je pensais à ça en vous écoutant, mais ça ressemble quand même beaucoup à des symptômes de dépression, ce dont vous parlez là.
Et j'ai une dépression en plus, parce que la dépression que j'avais pas au départ, ben la solitude, ben voilà, c'est. Alors j'essaie de squatter le plus possible chez les amis, mais voilà, mais c'est. Alors que j'ai mon chez moi, je paye mon chez moi, j'ai. Bon, j'arrive, ma paye a diminué automatiquement, j'arrive à joindre les deux bouts, mais mon chez moi, il est morne, quoi, aujourd'hui, quoi. Et donc, automatiquement, la dépression, elle est là, quoi. Et je me suis pas fait aider. Donc, à un moment ou à un autre, il faudrait que...
C'est ça que j'entends aussi dans votre discours. C'est que vous avez quand même été un bon petit soldat qui a tout pris sur ses épaules tout seul.
Oui, et que là, oui. Et pendant des années. Oui, mais là, je ne peux plus.
Je ne peux plus. Je crois qu'il est temps, de vous ouvrir un peu aux autres. À des thérapeutes, à des médecins. Il y a Anna qui envoie un petit message en disant qu'elle aimerait... rentrer en contact avec vous et il lui arrive la même chose, elle laisse son numéro de téléphone si jamais vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation.
D'accord, oui, il n'y a pas de, pas de souci.
Je pense que la vie est en train de vous dire, David, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut accepter de se poser et d'aller chercher de l'aide.
Oui, parce que moi, je faisais tout seul. C'est-à-dire, pendant des années, je faisais tout seul, j'ai acheté un maison tout seul. Des bons exemples, j'ai acheté des voitures en Allemagne tout seul. Dès que j'avais des emmerdes administratives tout seul, dès que j'avais des dégâts, dès que ça arrive dans une maison, je faisais tout seul. Des problèmes familiaux, je faisais tout seul. Et vous le faites pendant des années tout seul. Et au boulot, quand ça n'allait pas, après votre haine, vous la bouffez quand vous rentrez tout seul à la maison. Vous avez aucun exutoire. Puis au bout d'un moment, je pense que le corps il dit stop. Et puis il faut lâcher prise.
Exactement. Je le dis très souvent, la dépression vient nous dire quelque chose de notre histoire et du chemin sur lequel on est et qui n'est pas le bon. Toujours, il y a une raison à ça. Et quelques années après, quand on a su se servir de cette information-là, on se dit finalement, c'était un mal pour un bien parce que j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là.
Ah oui, de toute façon, à un moment ou à un autre, je vais tomber. Je devais tomber, hein. De toute façon, c'était bon. Et là, la vue, c'est le pire, quoi. La vue, je me dis, puis là où j'ai peur, hein, l'avenir, c'est... ce qui me revient le plus, c'est est-ce que je pourrais réapprécier les bons moments que je passais avec mes amis quand on partait en vacances ou des choses comme ça, ou réapprécier
bord de mer. Bien sûr, vous allez vous réinventer, bien sûr. Ouais. On peut remonter de tout. Après, ça dépend quel chemin on prend, avec qui, de comment on se fait accompagner.
Donc j'ai appelé pour témoigner. Donc après, je vous ai fait un résumé. J'étais quelqu'un de j'étais un très bon vivant, très dynamique.
Oui, ça s'entend. Mais vous l'êtes encore. Vous n'avez pas changé fondamentalement. C'est juste qu'il y a quelque chose pour l'instant qui vous dit que attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Et je crois que vous l'avez déjà compris.
Mais je m'entêtais. J'ai été.
Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais perdu le fil dans l'intervalle. C'est très classique de cette blessure d'abandon que vous mentionnez. Quand on a tellement peur de pas être aimé. De pas avoir assez de valeur, finalement, on ne demande pas d'aide parce qu'on veut être fort. On se dit, mais si je suis faible, on ne m'aimera plus. Si je demande de l'aide, peut-être qu'on ne m'aimera plus. Et c'est complètement faux. Il faut oser demander de l'aide. Ça n'est pas une preuve de faiblesse. On a tous besoin d'aide à un moment donné dans notre histoire de vie. Tous.
J'avais deux peurs par rapport à ces aides-là. Donc, il y avait la psychiatre. Bon, moi, je n'avais pas envie d'avoir par rapport à un psychiatre des médocs en plus. Parce que,
Je comprends tout à fait. Mais dans ces cas-là, il y a d'autres thérapeutes.
Il y a d'autres thérapeutes. Et il y avait la maison de repos. Je n'avais pas envie de tomber non plus avec, dans un endroit fermé, clos.
Écoutez-vous, David, j'ai l'impression que vous avez une bonne intuition. Vous savez ce qui va être bon pour vous.
Oui, je vais. Les pistes que je me suis données, que j'ai données à mon thérapeute, c'était de partir, par exemple. Donc, je connaissais quelqu'un à La Réunion. C'était de changer de tout au tout. Donc, par exemple, moi qui aimais bien la randonnée, par exemple, partir, organiser pour les gens donc, des randos, donc, comme dans un pays d'outre-mer, c'était un exemple. Partir dans un autre pays et sur des bases plus simples.
Alors, attention quand même à une chose. Avoir des projets, c'est bien, ça tient debout.
Oui, mais il faut être fort pour les
gens. C'est-à-dire que quand on part quelque part, quand on n'a pas résolu ses problèmes, on les amène avec soi.
On les amène
avec soi. Imaginer que le fait de partir loin va les faire disparaître, ça n'est pas vrai.
Exactement.
C'est un fantasme que beaucoup de gens ont. Et après, on se le reprend en boomerang deux fois plus fort. C'est pas une bonne idée. Ce que je trouve intéressant, c'est de lister déjà tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et tout ce que vous pourriez faire pour aller mieux. Parce que quelquefois, quand on voit les choses écrites, ça change la donne. Juste être clair avec vous qui aimez écrire, vous listez vraiment de manière très pratique. Voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour essayer d'aller mieux. Les médecins que j'ai vus, les thérapies que j'ai essayées, les médicaments que j'ai pris. Puis vous faites une deuxième liste avec tout ce que vous auriez envie de faire. Ou tout ce que à qui vous pourriez demander de l'aide, par exemple. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Parce que vous savez, la dépression, d'abord il faut accepter que c'est une maladie. La première chose à faire pour lutter contre une dépression, c'est d'être dans le mouvement, même si c'est un tout petit mouvement. De garder tous les jours une action.
Oui, une action, c'est ce qu'on me dit, de prévoir toujours. J'ai une amie qui me dit « demain, tu fais ça à toi,
tu as ton action demain. » Même une simple promenade à l'extérieur. Mais le fait aussi de prendre l'ordi ou un crayon à l'ancienne et d'écrire. Ce que vous pourriez faire pour aller mieux. Écrire, réfléchir à qui vous pouvez demander de l'aide dans tous les domaines, matériel, moral, psychologique. Rien que ça, c'est déjà reprendre les rênes. Vous savez, c'est ne pas vous laisser mener par une dépression, mais reprendre les rênes doucement. Puis je pense que surtout, il y a un vrai travail de fond à faire avec votre hypnothérapeute, puisque vous avez choisi cette voie-là.
Oui, parce que c'est
cette blessure d'abandon qui vous pourrit encore la vie aujourd'hui.
Abandon, méchant. Il y a des choses d'abandon et puis manque de confiance. Moi, je sais que l'entreprise, par exemple, il y a des choses qui m'ont choqué. Ma mère, par exemple, j'ai su après par le passé que ma mère désirait une fille. Comme vous savez, elle avait un garçon. Ma mère était tout le temps malade. Ça que je conseille. Alors ça, les enfants sont des éponges. Et ma mère, à tel temps, était quelqu'un qui avait des gros soucis de santé. Donc j'ai vécu sous le toit de mes parents, je suis parti à 25 ans parce que le temps d'avoir un boulot à plein temps. J'ai entendu pendant 25 ans des problèmes de santé. Donc et moi, en tant qu'enfant, quand ma mère à chaque fois parlait de ses problèmes de santé, ben moi c'était moi qu'on charcutait à côté. Et moi, je prouve donc les parents, quand ils ont leur progéniture, il faut les protéger de ça. Parce qu'on ne se rend pas compte que les enfants sont des éponges.
Certains parents n'en sont pas capables, justement, parce qu'ils vont mal eux-mêmes. Ils sont tellement écrasés sous le poids de leur souffrance à eux qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font mal aux enfants.
Parce qu'après, nous, on se dit, je vais être comme ma mère ou machin. Et moi, je l'ai absorbé pendant des années, ça. Et pareil, l'entreprise donc, dans laquelle manque de confiance, je suis arrivé où je ne suis plus, où je suis en arrêt maladie actuellement. Quand j'ai commencé, ma mère m'a mis dans un autre service, elle m'a dit je te mets dans cet autre service-là, autre que le mien, parce que je ne sais pas ce que tu vaux. Puis comme ça, s'il y a des boulettes, quoi que ce soit, ça ne retombera pas dessus. Mais je peux vous dire, ça m'a choqué. Parce que ça veut dire que, moi, ça m'avait énormément choqué. C'est-à-dire que, il y a un manque de confiance énorme.
Je vous inviterai aussi, est-ce que vous avez essayé au moins de faire un peu de méditation? Parce que j'ai l'impression que ça cogite beaucoup là dans votre esprit.
Ah oui, je suis hyper... mon optométriste là, qui me dit vous êtes hyper métrope, vous êtes hyper speed et vous cogitez beaucoup. Je dis je suis quelqu'un qui cogite énormément.
Est-ce que vous m'avez entendu conseiller ce merveilleux petit livre qui est très, très, très court, qui s'appelle « On est foutu, on pense trop » par Serge Marquis?
Non, je l'ai pas entendu.
Je vous le recommande. Il explique qu'on a tous dans le cerveau un petit hamster dans sa roue et que le hamster qui s'appelle Pensouillard, en pensant trop, il fait des pensouillures. C'est un livre qui est truffé de petits conseils, qui est très bien. Mais pour en revenir à la méditation, je pense vraiment... Alors, il faut du temps. Il faut accepter que la méditation, ce n'est pas une solution miracle en 3 jours.
Non.
Il faut le faire pendant 1 mois, 2 mois, avant que ça se mette vraiment en place. Même quelques minutes par jour, c'est une manière aussi, là aussi, de faire un pas de côté, de laisser le cerveau en mode pause, de laisser se calmer un peu. Parce qu'on finit par ne plus y voir clair quand on tourne à plein régime comme ça.
Oui, puis après, donc, des trucs tout simples aussi, lutter sur un an, sur un site de sortie. Donc, je n'ose même plus m'inscrire sur le site de sortie, parce que je dis, si je m'inscris, si mes collègues de travail, parce que vous avez besoin de voir d'autres personnes, me voient ou machin, on va dire que s'il n'est pas malade, machin, donc vous n'osez même plus sortir.
Mais ça va revenir. Il faut prendre les choses dans l'ordre et vous poser, faire effectivement tous les bilans possibles sur le plan médical, et ça vous êtes en train de le faire, c'est très bien. Et travailler en thérapie, en hypnose ou avec autre chose pour commencer vraiment à soigner les blessures et vous apaiser. Apaiser votre cerveau qui est en train de s'enfumer un petit peu là, tellement ça tourne.
Ouais. D'ailleurs, quand on parle de ça, donc mon hypnothérapeute, mais vous voulez me faire... C'est peut-être possible, mais moi je n'y crois pas, parce que souvent, moi, je suis négatif. Tu vois, j'ai un problème, c'est que j'ai du négatif, alors que j'étais plein d'énergie positive, donc automatiquement, je attire le négatif.
Et qu'est-ce qu'il voulait vous faire,
Alain? Il voulait me faire voir un spécialiste, un manipulateur, qui était doué donc, pour débloquer, on va dire, certains nerfs, et tout ce qui était au niveau du cerveau, toutes les terminaisons nerveuses voilà, au niveau du cerveau. Et c'était quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans, il m'a dit, il faut que je vous fasse voir. Parce que il y a eu des gens qui ont des problèmes de vue comme vous, parce que qui ne voyaient plus. Et il y avait une personne notamment qui voyait sa vue baissait, c'est-à-dire qu'en fonction de la luminosité, sa vue baissait, et puis ils ont dit, vous n'avez rien. Donc ce manipulateur-là, un jour on va voir ce manipulateur-là, donc il a...
Mais pardon, mais qu'est-ce que c'est un manipulateur?
Alors c'est quelqu'un qui va, c'est-à-dire que vous avez au niveau du rachis cervical, après il y a tous les nerfs qui partent, voilà, donc toutes les terminaisons nerveuses.
Mais c'est un ostéopathe, un kiné,
Non, c'est un manipulateur, je ne sais pas justement. Alors là, je n'ai pas le pédigré du bonhomme, donc je le verrai quand je saurai quand je le verrai. Mais apparemment il est connu, c'est quelqu'un qui vient tous 3 mois en Bretagne, il fait des conférences. Et donc, cette personne-là, il avait débloqué la vue dans le sens où, bon, il a commencé à lui toucher le rachis cervical, il parlait du nerf Arnold. Et puis là, la personne, elle commençait à dire, mais oh, c'est bizarre, je vois un peu mieux. Et puis, il m'attendait qu'il dise, gars, j'ai pas fini. Et puis après, là, hop, voilà, donc après, il y a des façons de faire, hein. Après, je sais pas, et il travaille au niveau que la personne s'est mise à pleurer, parce qu'elle la revoyait, elle a commencé à revoir nettement. C'est-à-dire qu'elle avait des nerfs, enfin, c'est pas le nerf, oui, une partie du nerf optique était, voilà, des nerfs qui étaient bloqués, quoi.
Bon, attention quand même de ne pas tomber dans des arnaques ou dans des croyances comme ça. Testez-le avec tous les bémols du monde si vous en avez envie, mais soyez vigilant quand même sur ce genre de choses.
Oui, parce que j'ai vu plusieurs magnétiseurs, et puis bon, c'est. Là, j'ai vu un qui m'a soulagé mes problèmes de ventre, parce qu'automatiquement, vous avez des problèmes de bide. Vous êtes... Et la vue, bon, ça n'est pas trop soulagé la vue, quoi. Voilà. Mais le pire, en vrai, dans l'histoire, quand on arrive là-dedans, c'est voilà, la solitude. La solitude, ne plus savoir quoi faire, ne plus voir personne. Et puis les amis travaillent, pendant que vous êtes à la maison, les amis travaillent, donc on ne peut pas aller. Voilà.
Et en même temps, vous savez, quand on traverse des événements comme ça, quand on arrive, et j'espère que c'est le travail que vous allez pouvoir faire avec votre thérapeute, quand on arrive à prendre ce qui nous vient comme un défi à surmonter, et pas comme une trahison, comme une blessure, alors il y a une nouvelle énergie qui arrive. C'est une énergie de transition qui va se passer pour vous. Vous me disiez, avant, je voyais tout enfin, j'étais quelqu'un de positif, maintenant je vois tout en noir. Ça va rebasculer. Parce que la solution, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. Et en faisant ce travail-là, vous allez la trouver. Vous allez soigner les blessures.
C'est ce qu'on toutes les solutions, oui, on les a en soi, quoi. Alors on s'aide des autres, mais les solutions, il faut qu'on les trouve soi-même. Mais même quand on vit, même souvent, quand on est en couple avec quelqu'un, on dit toujours qu'on est toujours tout seul, même si on est en couple avec la personne, on partage.
On est d'abord tout seul.
L'être humain, il fait comme ça, même si on est grégaire, on a toujours besoin des autres, on est tout seul.
Et cette solitude dont vous parlez en ce moment, je pense qu'elle est nécessaire pour cette transition. Vous ne pourriez pas en ce moment, de toute façon, être avec trop de monde autour.
Oui.
Et encore moins avec une personne en relation amoureuse, parce que ça ne serait probablement pas la bonne personne avec qu'elle serait elle serait en harmonie avec celui que vous êtes aujourd'hui, mais vous allez changer.
Oui.
C'est ça.
Oui. Et une infirmière, bon ben voilà, c'est pas. Après, s'il y a des gens qui veulent, moi je suis dans la bon. Après, voilà, faire des sorties, des marches ou sur la région de Morlaix. Si voilà, moi je.
Morlaix, vous êtes. Je
veux bien leur donner. Hein, pardon.
Morlaix, vous avez dit.
Ouais, Morlaix, hein, c'est dans le Finistère. Hein. S'ils veulent faire des marches ou discuter, moi il n'y a pas de souci pour que je sorte, pour que j'arrive à me sortir parce que je deviens. C'est pas la peur de la foule, mais j'en reviens. Ouais, je commence à avoir peur de sortir dans l'histoire.
On vous transmettra les messages. Déjà, ne raccrochez pas David, puisqu'on a Anna qui a laissé son numéro de téléphone.
D'accord.
Mais pensez quand même d'abord à vous, là, tout de suite, pendant les quelques mois. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'appeliez dans quelques temps pour me donner de vos nouvelles, me dire comment ça a avancé, tout ça. Hein.
Et puis, je vous donnerai, mais j'ai pas envie de le donner, parce que bon, je suis pas là pour faire de la vente. Je vous donnerai en antenne, si vous voulez, les titres de mes deux livres. Mais bon, j'ai pas envie de. Je suis pas là, quelqu'un. Alors, je reste honnête, hein, je suis pas un vendeur de cacahuètes. Donc, si vous voulez, je donnerai les références de mes livres qui paraîtront sur Amazon. Et, j'attends un ISBN déjà pour commencer.
D'accord.
Et après, je pourrai publier un de mes premiers livres. Voilà.
Bon, ça aussi, c'est un projet qui va vous faire du bien. Et vraiment, la porte est ouverte, David. Revenez quand vous voulez pour me raconter la suite.
D'accord. Je vous remercie beaucoup. Et puis, bon courage aussi à vous pour votre émission. Puis,
ne raccrochez pas surtout. Hein. Je vous passe Maxime tout de suite. Merci à vous,
d'accord.
David.
Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et c'est maintenant Zabeth que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir Zabeth.
Bonsoir Sabine, merci de me prendre.
Merci d'avoir patienté.
Oui, j'ai le temps, je suis hospitalisée, donc j'écoutais tranquillement. Bon. Alors, comment j'ai commencé ? J'ai été hospitalisée d'urgence mardi. Et ça faisait 3 mois que je ne me sentais pas bien. Je disais au médecin, à mon médecin traitant, je ne sais pas, ça ne va pas. Prise de sang, je voyais mes globules rouges, globules blancs chuter. Enfin voilà, tout un. C'était pas bon. Et comme je souffre d'une maladie génétique en plus, je me suis dit, normalement, je ne fais pas d'excès, enfin, je ne bois pas d'alcool, je me nourris sainement, et je ne comprenais pas. Et bon, j'ai été hospitalisée mardi, on a tout de suite enchaîné les examens, et il s'avère que j'ai le cancer.
Ah, cancer de quoi ?
Alors, demain, j'en saurai plus, mais pour l'instant, j'ai une tumeur à l'intestin.
Et de ce qu'en ont vu les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent déjà là, tout de suite ?
Ben, demain, je verrai tous les médecins qui s'occupent de moi.
Oui.
Et j'ai encore un IRM à faire de la tête aux pieds demain matin. L'oncologue m'a dit qu'il faut opérer le plus rapidement possible. Et c'est pas une angoisse. J'ai mis une nuit à pleurer. À
encaisser le coup, bien sûr.
Voilà, j'encaisse des coups parce que je suis une battante de nature. Le problème, c'est que annoncer ça à mes enfants, à mes deux filles et à mon mari. Bon, mes filles sont des battantes, donc elles sont venues me voir. Mon mari, il est complètement perdu. Il a peur de se retrouver seul. Déjà maintenant, à la maison, de la maison. Mais j'ai quand même un petit peu peur puisque j'ai mon papa qui est décédé d'un cancer du côlon. J'ai ma petite sœur qui l'a eu. Et maintenant, c'est mon tour. Mais le problème, j'ai une maladie génétique.
Alors, c'est quoi cette maladie génétique, Zabeth ? Quels sont les symptômes qui vous embêtent ?
Alors, les symptômes... Bon, ça vient de naissance. Hein. Je l'ai depuis la naissance. Oui. Ça mange le collagène du corps.
Oui. Et ça donne quoi ?
Et ça me donne, par exemple, j'ai eu 60 plâtres partout, des fractures, des...
Ah, c'est comme la maladie des os de verre, c'est ça ?
Oui, voilà, un genre, mais et ça atteint les muscles. Par exemple, pour... et ça fait des hémorragies.
Et ça, vous êtes la seule dans votre famille à l'avoir ?
Oui.
Ouais.
Oui, ça vient du côté de mon papa. Et ma tante est décédée de cette maladie.
Ah oui, donc vous n'êtes pas la seule ?
Non. Mais mes enfants ne l'ont pas, ils ont été...
Dépistés ?
Voilà, dépistés.
Et est-ce que pour cette maladie-là, il y a quand même des choses qui vous aident, qui vous soulagent ?
Je suis sous morphine depuis 2004. Hein. Mais le problème, c'est que le chirurgien m'a dit c'est 50-50. Et risque d'hémorragie, risque... je lui ai dit... on meurt qu'une fois et 50-50, voilà, c'est comme ça, ça ne sera pas autrement. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi, mais moi, je vois ça comme ça. Je ne m'inquiète pas.
C'est déjà une bonne chose pour aider votre corps à se défendre.
Je me dis, faut que je passe par là, ça réussit, c'est bien. Si ça réussit pas, tant pis, c'est... J'ai réglé tout ce qu'il y avait à régler avec mon mari et mes enfants. Si jamais il y a quoi que ce soit, bien sûr.
Quel âge ont vos enfants, Zabeth?
Alors, Clara, elle a 25 ans, elle est soignante aussi. Et Mélissandre a 28.
D'accord. Ce sont des femmes qui sont installées dans la vie ?
Oui. Bon. On forme une famille très unie. Allô ?
Oui, je vous écoute. J'étais en train de me dire, c'est extrêmement important. Ça aide aussi beaucoup quand on a des soucis de santé. Hein. Pouvoir s'appuyer sur les siens et sur cet amour-là.
Par contre, dans ma famille... j'ai appelé maman pour lui interdire de venir à l'hôpital et ma petite sœur, par exemple.
Pourquoi ?
Écoutez, ils sont témoins de Jéhovah et j'ai pas envie qu'on me bourre le crâne avec.
D'accord, oui, c'est bon, je comprends. D'autant que si je me trompe pas, leur précepte à eux, c'est de surtout pas se soigner quand on a une maladie comme ça.
Ben, vous savez, si elle savait que j'ai déjà eu deux poches de sang depuis que je suis ici...
Mais pas de transfusion sanguine non plus, c'est ça, oui, ce qu'ils prônent.
Oui. Ouais. Mais bon, je suis entourée de mes enfants, de mon mari et de ma cousine. On est très proches.
Et visiblement, vous avez d'autres soutiens, Zabeth. Il y a un petit message qui vient d'arriver de la part d'Isa, qui dit « J'ai connu Zabeth sur un groupe de parole Facebook et c'est un amour de femme courageuse et battante et je l'embrasse fort. »
Ah, ma merci. Ah, ma soeur, ça me touche. Hein. Ah oui, énormément. Oui, j'ai beaucoup d'amis de la Libre Antenne. Enfin, beaucoup non, mais où je partage. Mais les derniers temps, je ne partageais plus parce que j'avais plus le... J'essayais de me défendre pour avoir que du positif dans ma tête.
Ouais, c'est extrêmement important ça. Est-ce que vous lisez ?
Vous savez ce que je suis en train de lire ?
Dites-moi.
Vous allez vous moquer de moi.
Sûrement pas.
Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Ouais, je ne me moquerai pas de vous du tout, c'est un de mes livres préférés.
J'adore ce livre et la manière de la manière dont on comprend m'apporte beaucoup de choses.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un livre qui se comprend à différents niveaux.
Voilà.
Et est-ce que
mais
vous...
j'avais envie.
Oui.
Oui.
Non, je pensais à ce merveilleux livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Guérir. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Non, non.
Alors, je vous le recommande.
Ah oui, d'accord. Ben, comme je pourrais l'écouter en podcast, je pourrais noter le titre.
Guérir tout simplement, de David Servan-Schreiber.
Ah oui, d'accord.
Mmh. Il doit sûrement exister en version audio, si vous préférez.
Ah oui. Enfin, le seul qui est vraiment perdu, c'est mon mari.
Mais souvent, c'est difficile pour le conjoint dans ces situations-là. Parce qu'ils ont peur, à la fois pour l'autre et pour eux-mêmes.
Non, mais je crois qu'il a plus... Enfin, bon, on est mariés depuis 35 ans, on vit ensemble depuis 38 ans. On est un couple, on se fait confiance mutuellement, on se respecte. Parfois, il y a des petites disputes, mais vraiment pas des grandes, parce qu'on nous dit toujours, vous êtes un couple formidable, vous pourriez jouer au théâtre ensemble, tous les deux. Voilà. Mais j'avais envie de vous parler ce soir. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête.
Vous avez bien fait, ça va être.
Oui. Et ce soir, j'ai osé vous appeler.
Je pense à votre mari. Peut-être pourriez-vous lui conseiller, lui, d'aller dans des groupes de parole.
Ça, il ne fera jamais de la vie.
Ah, oui, je m'y attendais un peu. Mais c'est dommage, parce que c'est justement à ce moment-là qu'il en aurait besoin.
Oui, mais j'en ai parlé. J'ai dit, écoute... on va se battre tous ensemble. Il a dit, chérie, on sera là. On est tous les cinq, on est là. On ne te laisse pas tomber, tu le sais. Et c'est vrai, il se relaye tous les jours. J'ai mes filles, il y en a une qui vient le vendredi, une qui vient. Comme elle travaille les week-ends, les deux... une travaille un week-end, deux parfois j'arrive même plus à suivre comment elle travaille, quoi. Mais je suis entourée, vraiment entourée.
Tant mieux. Et ça continue, on a des messages qui arrivent pour vous. Zabeth, il y a Rémi qui nous dit « Zabeth, vous êtes courageuse et on entend votre force, votre sagesse malgré vos soucis de santé. Gardez le moral, vous vaincrez cet obstacle. Bise, vous dit Rémi. »
Ah ben merci. Merci beaucoup.
Et je pense qu'il est le porte-parole de ce qu'on est nombreux à penser ce soir en vous écoutant.
Non mais, il est dans le service, ils me font, mais Madame Simon, j'ai dit mon nom de famille, tant pis. Comment vous faites pour... J'ai dit, je m'y étais un peu préparée sans cette gravité des choses. Et je me prépare demain à dialoguer avec le chirurgien, l'anesthésiste, parce que c'est l'anesthésiste qui a le plus peur, quoi.
Oui, parce que le terrain est fragile.
Oui.
Mais si vous êtes prête à affronter ça, vous allez vous aider vous-même en renforçant justement votre corps. Si vous avez ce mental que j'entends là, qui est vraiment un mental de positif et de vainqueur, ça va aussi aider tout ça.
Mais c'est ce que je pense.
Et pensez surtout aussi à la visualisation avant chaque étape, avant chaque intervention. Visualisez l'opération qui se passe bien. Visualisez-vous après, ayant surmonté ça. Visualisez-vous en train de fêter ça avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Ressentez déjà cette réussite et ce bonheur-là dans votre cœur. C'est comme de mettre des petites flèches sur le chemin de la vie, vous voyez. En disant, c'est par là que je veux aller.
Oui. Moi, je m'étais mis dans la tête, je sais pas si vous connaissez les Grandes Canaries, et les Grandes Canaries, au nord des Grandes Canaries, il y a des piscines naturelles qui sont magnifiques pendant la montée de la marée et la descente. Et j'ai cette image dans ma tête.
Est-ce que c'est une image qui vous apaise ou est-ce que c'est une idée d'y aller aussi un jour?
Non, mais j'y ai été déjà deux, trois fois.
Ah, vous connaissez. Donc, c'est l'image qui vous apaise.
Oui.
C'est intéressant de vous servir de ça aussi, quand il y a des moments un peu difficiles. de partir à l'intérieur de votre esprit simplement dans cet endroit-là, vous poser, juste voilà, profiter de ces images, de ces souvenirs.
Oui, voilà.
Mais en même temps, quand vous faites ça, vous pouvez à la fois vous faire du bien en vous replongeant dans ces souvenirs-là, vous reconnecter aux images, aux parfums, aux sons, et en même temps faire ce travail de visualisation positive. De voilà, l'opération se passe bien, le réveil se passe bien, la suite se passe super bien, et de déjà commencer à intégrer tout ça.
Oui. Oui, ça je l'ai déjà, ben je l'ai fait, hein, depuis vendredi soir. Bon, j'ai pleuré un bon coup, hein, quand même. Quand il m'a dit, j'ai pleuré un bon coup, mais je lui ai dit, je me reprends, je vais être positive et je suis une battante.
Oui. C'est ce que j'explique souvent, il y a un temps pour prendre les coups, un temps pour se poser par terre et pleurer et un temps pour se demander ce qu'on en fait. Et agir.
Voilà.
Et vous en êtes là déjà, voilà. C'est-à-dire vous avez déjà choisi ce que vous alliez en faire.
Oui.
Et ça, c'est une force énorme.
Enfin, je ne sais pas comment j'y arrive tout comme ça. J'étais toujours comme ça, quoi, en fin de compte. Parce que j'ai subi plusieurs opérations. J'ai eu pas mal d'épreuves, de grosses épreuves dans ma vie, de santé. Et j'ai toujours... j'ai fait comme si j'allais, je sais pas, faire mes courses tranquille.
Un peu comme un pied de nez à la maladie, quoi.
Oui, voilà, ouais. C'est ça.
Et ça aussi, c'est une façon de reprendre les rênes, de pas se laisser engloutir.
Ah oui.
C'est une façon de vous dire à vous-même, ok, voilà, j'ai ce souci-là. Mais je m'en fous parce que j'aime la vie.
Ben, je vais dire penser aux vacances pour l'année prochaine.
Ça va vous faire du bien. Il y a Martine qui vous envoie un petit message aussi, qui vous dit « Allez de l'avant, battez-vous. Ma fille de 39 ans avait un cancer. 5 ans sont passés, elle est en rémission. Ayez confiance. » Et je crois que c'est un peu le message qu'on a envie de vous transmettre ce soir, Zabeth. C'est d'abord, ne changez rien, vous êtes formidable. Gardez cette lumière en vous, cette belle énergie positive de guérison. Et j'aimerais vous envoyer aussi plein de bonnes ondes, plein d'ondes positives et vous souhaiter que les choses se passent au mieux maintenant.
Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, Samy. Franchement, je vous écoute.
Ah. Allô ? Ah. Ah, je suis désolée, on a perdu Zabeth. Bon, Zabeth, si vous m'entendez encore, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Notre émission se termine. À partir de demain soir, vous retrouverez Olivier Delacroix à partir de 22h30. Moi, je vous retrouve, vous le savez, vendredi prochain. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. C'était une émission assez intense, assez atypique. Je vous quitte avec la phrase du jour. Il arrive un moment dans la vie où il faut s'arrêter, voir où on en est, regarder jusqu'où on veut aller et surtout laisser derrière soi tout ce qui nous retarde. Je vous laisse réfléchir à ça. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour nous parler, me parler le week-end prochain, sur par mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Vous laissez bien votre nom, le sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe, et surtout votre numéro de téléphone. Et je vous promets que le week-end prochain, Maxime et Estelle vous rappelleront pour que nous puissions nous parler. D'ailleurs, à ce propos, pardon à tous ceux qui étaient encore en attente ce soir, on n'a pas pu prendre tout le monde. Si vous êtes dispo, je vous promets que je vous prendrai l'antenne à partir de vendredi prochain. Passez tous une bonne semaine.